semaine, comme vous avez pu le voir très largement, Baptiste.
Enfin, je parle beaucoup trop. Hein. Et on va mettre un implant peut-être pour réduire ma critique, mon état critique. Alors je vais reparler vite fait d'intelligence artificielle.
Mais ne me demande pas avec ton regard.
Parce qu'on fait des autorisations. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté les informations, on en parle beaucoup parce que Cédric Villani, le député macronien de l'Essonne, un grand mathématicien, a sorti un rapport sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, parce qu'il faut quand même parler du transhumanisme. L'intelligence artificielle, alors la définition de l'intelligence artificielle, ça serait, comment dire, je ne la connais pas vraiment, c'est l'ensemble des théories, des techniques mises en œuvre pour doter les systèmes informatiques d'une intelligence semblable à celle de l'humain. Alors l'intelligence, déjà, il y a une ambiguïté par rapport à la traduction même du terme intelligence, parce qu'en anglais, intelligence, c'est la collecte des données. Intelligent service, c'est les services secrets.
Renseignements
généraux. Donc il n'est pas question là, d'une intelligence avec une conscience. Ça a été traduit en France en intelligence artificielle, et en français, intelligence, il y a une conscience. Aujourd'hui, on n'en est pas là encore, avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qui se passe, c'est que cette intelligence artificielle se généralise, fait très peur, même à certains hommes politiques qui l'ont évoquée, mais elle était très peu évoquée durant la campagne présidentielle. Mais ce qui risque de se passer, c'est qu'un jour, les inquiétudes au niveau de l'intelligence artificielle, ce que je vous ai dit au niveau des hôpitaux, Watson va remplacer les médecins un jour, peut-être, même les chirurgiens. Les chirurgiens, aujourd'hui, beaucoup d'opérations chirurgicales sont faites par des robots guidés par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est trading, spéculation boursière, est aujourd'hui entre les mains de l'intelligence artificielle. Ce sont des programmes d'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, là, je vous conseille la lecture du livre de Noah Harari, l'ensemble de la vie n'est plus réduite qu'à des algorithmes. Au niveau biologique, on ne serait que des algorithmes. L'intelligence, la conscience, alors il n'y a plus évidemment d'âme ou de quoi que ce soit, tout est chimique et expliqué par des algorithmes. Et pour comprendre et agir sur ces algorithmes, il y a d'autres algorithmes mathématiques qui sont aux mains des géants du web, de la Silicon Valley. Donc l'intelligence artificielle, au niveau des voitures, pourrait créer des voitures sans conducteur. Au niveau des assurances, au niveau de tous les services, elle peut être beaucoup. C'est la recherche d'une efficacité parfaite. L'humain, malheureusement, est imparfait. Donc il faut. C'est pas mon avis, c'est l'avis des gens qui impulsent l'intelligence artificielle. Il faut avoir des programmes qui peuvent gérer la vie de façon parfaite, fiable et inéluctable, sans cas de conscience. Donc l'intelligence artificielle au niveau militaire, il y a d'énormes recherches qui sont menées. Par exemple, on fantasme sur des guerriers futurs. Je vous ai parlé tout à l'heure qui pourraient voir la nuit. Mais il y a des guerriers aussi qui pourraient commander par la pensée des drones. Il y a des recherches qui sont menées là-dessus. Voilà. Donc l'intelligence artificielle version Villani devrait être généralisée dans peu de temps au niveau de la santé, de l'écologie, de la défense et le quatrième,
transport.
Et les transports. Alors l'intelligence artificielle fait très peur. Tout à l'heure je vous parlais d'Elon Musk qui a tout un tas de programmes qui développent autour de l'intelligence artificielle, mais en même temps elle fait très peur parce qu'un jour, pour le moment, bon, l'intelligence artificielle, alors je vous conseille, en France, il y a Facebook, à son service d'intelligence artificielle en France, s'appelle FAIR, et qui est dirigé par un Français qui s'appelle Yann LeCun. Lui a quand même, il est intervenu sur les ondes dernièrement, et il a participé à un numéro spécial de Libération sur l'intelligence artificielle, il a quand même une vision assez posée. Donc il dit que pour le moment, l'intelligence artificielle, en fait, ce sont des programmes très puissants, très perfectionnés, mais qui sont programmés pour aller dans un sens. Notamment AlphaGo, par exemple, a battu le champion du monde de jeux de Go, qui est apparemment un des jeux le plus sophistiqué. Et pendant longtemps, on ne pensait pas qu'une machine pourrait vaincre un humain. Mais AlphaGo s'est doté de ce qu'on appelle deep learning, c'est-à-dire un auto-apprentissage, et a réussi à devenir plus intelligente, plus puissante, plus efficace qu'un humain. Mais dans ce domaine-là, AlphaGo, pour le moment, on ne va pas le faire intervenir au niveau médical, on ne va pas le faire intervenir au niveau transport. Mais voilà, donc l'intelligence artificielle, ce sont des... Aujourd'hui, est efficace dans des zones bien déterminées. La crainte, c'est qu'un jour, cette intelligence artificielle fabrique une conscience et qui mettrait en réseau tous ces programmes. Et là, on obtiendrait ce que certains craignent, une intelligence artificielle hostile qui pourrait un jour envisager de détruire l'humanité. Il y a je ne sais pas si c'est un film ou un livre de science-fiction, où on demande à l'intelligence artificielle de sauver la planète. C'est une nouvelle, je crois, que j'ai lu. Et on fait... comme la planète est menacée par l'humanité, donc l'intelligence artificielle, elle programme la disparition des humains pour sauver la planète. Bon, on n'en est pas encore là, mais ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'emploi, en tout cas, ça va se traduire très certainement par une disparition des emplois, donc peut-être par une société où il y aura beaucoup moins de travail, avec des populations de plus en plus marginalisées. Bon, voilà. Là, il peut y avoir tout un... Je vais arrêter dans... Là, mais ça, c'est une réflexion politique concrète sur les conséquences de l'intelligence artificielle, soit une intelligence artificielle un jour qui pourrait être hostile, soit une intelligence artificielle qui prendrait tout le travail et qui marginaliserait une grande partie de la planète et au service d'une caste, d'une élite économiquement très puissante. Voilà. Maintenant, je crois... Oui.
Oui. Je peux... Deux minutes. Parce que vous avez parlé de science artificielle et qui serait capable d'acquérir une conscience. Ça commence à me poser problème parce que, c'est une supposition. Comme disait l'autre, science sans conscience, etc. Donc, s'il y avait conscience, il y aurait peut-être une chance d'en sortir. Mais de la part de l'intelligence artificielle. Mais ce que je crains, c'est qu'il puisse y avoir une continuité de cette domination par les GAFA de la collecte des données et que d'autres personnes, d'autres associations se fixent là-dessus. Par exemple, les assurances pour les prêts bancaires. Par exemple, je ne sais pas, certains employeurs qui pourraient demander, etc. Et qu'on en arrive finalement à marginaliser avant que ça se produise par les machines, à marginaliser les hommes tels que nous sommes actuellement et à les mettre dans des situations telles qu'ils soient obligés de se flinguer. Parce qu'ils n'auront plus de ressources, plus la possibilité d'avoir des emprunts, plus la possibilité de vivre normalement et donc obligés de disparaître, de s'éliminer tout de suite. Et ne laissant en place que des gens qui auraient la possibilité d'accéder à toutes ces données, d'accéder au génome, etc. et qui pourraient éventuellement, eux, avoir une surhumanité. Voilà ce que je crains.
Plus
avant la prise de conscience.
Plus le contrôle social. Hein.
Oui, oui.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès que vous passez en garde à vue, on fait systématiquement un prélèvement d'ADN pour constituer des fichiers. Qui gère ces fichiers, on ne sait pas trop. Je vous parlais de la reconnaissance faciale aussi, qui est généralisée en Chine, mais qui va trouver son application aussi en France. Donc au niveau des contrôles des populations, on a vu avec Facebook, excusez-moi, je fais encore une digression avant d'arriver au transhumanisme, mais il y en a tellement. Facebook, avec la société qui s'appelle Cambridge Analytica, on en a beaucoup parlé, parce que Cambridge Analytica a été mise au service de Trump et de tout le groupe de pression du Brexit en Angleterre. En collectant les données que tout le monde véhicule sur Facebook, ils ont réussi à cibler et à diriger des individus, des personnes pour les influencer dans leur vote. Alors, Cambridge Analytica s'est basé sur une étude, je pense qu'ils y ont participé en grande partie aussi. Cette étude a étudié l'histoire des likes dans Facebook. Ils ont conclu dans leur étude qu'avec 15 likes, moi je ne suis pas sur Facebook, alors vous voyez ce que c'est un like, quelque chose que vous aimez, vous likez.
Moi, par principe, je ne le fais jamais, justement.
Voilà. Avec 15 likes, on en sait plus que Facebook, on sait plus sur vous que vos collègues de travail. Avec 150 likes, Facebook en sait plus sur vous que les membres de votre famille. Avec 300 likes, ils en savent plus que votre compagnon ou que votre compagne. Et au-delà de 300 likes, ils en savent plus sur vous que vous-même. Donc, c'est avec ce programme, avec ces millions et des milliards d'informations, que, effectivement, Cambridge Analytica a pu influencer des décisions politiques d'une grande partie de la population. Aujourd'hui, tout le monde tombe sur Facebook. Bon, on va contrôler ça, mais en même temps, quand Villani présente son programme d'intelligence artificielle, il dit il ne faut plus qu'il y ait de contrôle, grosso modo. Hein. Il faut laisser libre cours, il ne faut plus qu'il y ait de réglementation qui ralentisse la recherche, qui ralentisse le développement des start-up. Il faut investir là-dedans. Et même au niveau du contrôle des données, alors on est dans une contradiction permanente, parce que l'Europe vient d'adopter une réglementation qui va rentrer en application au mois de mai, mais en même temps, Villani dit qu'il faut partager, il faut que toutes les données puissent être partagées et accessibles à la recherche. Donc ça veut dire moins de contrôle. Donc voilà. Donc Facebook aujourd'hui dans le collimateur, mais en tout cas ces questions de données, le contrôle des données, ça va être de plus en plus d'actualité. Alors pour un peu de...
Oui, c'est juste pour revenir un peu sur Facebook, et effectivement, les craintes qu'on peut avoir, déjà le point de la reconnaissance de l'image faciale, elle est active chez Facebook, puisqu'on peut être reconnu sur une photo qui est publiée. Parce qu'il y a des algorithmes et des logiciels qui se mettent en route pour identifier les individus de cette façon-là. Et là, ce que tu expliquais ensuite par rapport aux données qui sont véhiculées sur Facebook, on a parlé beaucoup des données médicales tout à l'heure, mais là, on est sur le terrain des données comportementales. Et là, il y a beaucoup de craintes à avoir, tu en as écrit sur l'influence des populations, la prévisibilité des comportements des uns ou des autres.
Contrôle et manipulation.
Et donc, manipulation de l'esprit en général. Ouais.
Déjà qu'ils arrivent à manipuler, à faire lire un peu qui ils veulent, alors avec ces nouvelles données, on ne sait pas où ça va.
Bon, on est déjà manipulé, hein.
C'est pas... le vote, c'est la partie visible de l'iceberg. No.
Ils n'ont rien découvert, sauf que ça va devenir de plus en plus efficace.
Ah, oui.
Alors pour en venir au transhumanisme, ce qui nous amène ici ce soir, alors pour aller vite, le transhumanisme, alors c'est issu de tout ça. C'est porté essentiellement par les dirigeants, entre autres. Après, il y a des technoprophètes, c'est porté par les dirigeants des géants du web de la Silicon Valley. Donc tous les chefs d'entreprise des GAFA sont tous des transhumanistes. Alors le transhumanisme, pour moi, ce n'est pas encore une idéologie, c'est un ensemble de croyances qui vont un peu dans tous les sens. C'est né en Californie, c'est issu un peu du climat contestataire qui a pu exister un jour en Californie, je vais y revenir dessus, et surtout des phénomènes de toute la cyberculture et tout ce qui est lié à l'Internet, et ce développement phénoménal de l'Internet et de l'émergence en quelques années de cette économie de l'Internet, qui a fait que des jeunes étudiants comme Sergey Brin et Larry Page, qui sont à la tête de Google, du jour au lendemain se sont retrouvés à la tête d'un empire phénoménal, ce qui fait fantasmer beaucoup, beaucoup de gens.
Zuckerberg pareil.
Oui, oui. Le transhumanisme donc, a mis la science sur un piédestal et en a fait un dieu. Ces fantasmes, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, c'est l'immortalité, c'est-à-dire l'homme, avant l'immortalité c'était pour l'au-delà, mais maintenant comme l'homme est devenu un dieu, il faut en faire un immortel. Alors il faut vite, je précise que tous ces fantasmes ne sont pas destinés à l'ensemble de la population, mais à une élite. On va très vite venir à une espèce d'eugénisme, on est dans l'eugénisme, une sélection de la population et la sélection d'une race supérieure augmentée. Donc, fantasme sur la fusion de l'intelligence artificielle et de l'intelligence biologique. Je vous disais que mais tous, ils ont des programmes là-dessus. Elon Musk a créé une société, mais tout le monde fantasme là-dessus. Et par exemple, il y a le chef de l'ingénierie, le grand directeur de l'ingénierie de Google qui s'appelle Raymond Kurzweil. Alors Raymond Kurzweil, c'est aussi un des papes du transhumanisme. Il a créé une théorie qui s'appelle la théorie de la singularité. Alors ce monsieur, donc il est à la tête de toute l'ingénierie de Google, donc ce n'est pas rien, une des sociétés les plus puissantes de la planète, il travaille pour l'armée américaine et il dirige l'une des plus grandes universités de la Californie qui s'appelle l'université de la singularité, dans laquelle on forme les politiciens, les chercheurs, on les familiarise aux nouvelles technologies et un peu à l'idéologie du transhumanisme. Donc ce monsieur est à la tête de tout ça. Alors ce que je vais vous raconter, ça pourrait passer pour le délire de quelqu'un un peu faible mentalement. Bon, là, sauf que c'est quand même le délire d'une des personnes les plus puissantes de la planète. Alors la singularité. Monsieur Raymond Kurzweil, bon, il a créé tout un tas de programmes. Il a fait fortune, il s'est fait connaître comme ça au niveau Internet. Mais aujourd'hui, il travaille sur un programme d'ordinateur quantique qui serait 1000 fois plus supérieur aux ordinateurs que l'on connaît. Il travaille sur un programme de téléchargement de la conscience sur un ordinateur. Donc Google lui donne toutes les capacités pour travailler là-dessus. Il travaille aussi avec Calico sur un programme lié à l'immortalité. La théorie de ce monsieur, c'est qu'un jour, on finira par fusionner l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine. Il a même daté ça en 2045. Et que ça va créer un choc tel, ça créera un trou noir dans les lois de la physique qui fait que l'humain, tout d'un coup, va devenir, va prendre possession du cosmos. Ça va créer une espèce de Big Bang incontrôlé où l'humain deviendra une espèce de dieu. C'est résumé, mais c'est grosso modo la théorie de ce monsieur, la singularité. Il faut savoir qu'en France, en Aquitaine, il est question qu'on ouvre une université de la singularité. Donc voilà, ça c'est un des pans du transhumanisme. Un autre pan du transhumanisme, c'est la World Transhumanist Association. Alors je vous lis juste un extrait de ses déclarations. C'est « Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître les capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être maîtres de leur propre vie, s'épanouir en transcendant les limites biologiques actuelles. » Alors on voit que, en fait, le transhumanisme est basé sur tout un tas de théories, notamment la réalisation de soi, le développement personnel, en poussant à l'extrême le développement personnel et en mettant à son service tout ce qui est possible au niveau science, culturel. Il ne faut aucune limite politique, et on est en plein dans l'individualisme, il faut qu'il n'y ait aucune limite à l'accomplissement de l'individu. Tout cela se rapproche d'une théorie économique et politique. Je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus, parce qu'en France, il commence à y avoir des représentants, et je pense que notre président est très proche, en tout cas, le rapport de Cédric Villani est complètement ancré dans cette théorie. Dans cette théorie économique, s'appelle le libéralisme libertarien, à ne pas confondre avec les libertaires. Alors, effectivement, ça, c'est lié à l'histoire de la Californie et à la France aussi, les théoriciens et français. Le libéralisme libertarien, c'est-à-dire, au niveau moral, ça peut être tout à fait engageant. On est pour, on va lutter pour les droits, les droits civiques, pour que les Noirs et les Blancs aient tous les mêmes droits, pour la reconnaissance des droits des gays, mariage pour tous, libération des drogues. Au niveau social, ils sont très à la pointe, ils sont très tolérants. Mais au niveau, par exemple, ils peuvent être aussi pour le port d'armes et pour pas qu'on empêche, pour qu'il n'y ait aucun contrôle de l'armement. Et au niveau économique, ils sont pour le libéralisme le plus outrancier. Aucun impôt, aucun contrôle de l'État, liberté totale de l'individu et disparition de l'État. Ça, c'est le libéralisme libertarien. Voilà. Et on est aussi dans une guerre, au niveau économique, c'est les start-up et les fonds de capitalisme, les fonds de...
Fonds de pension.
Non, c'est les fonds de pension, ça porte un nom.
Fonds d'investissement.
Les fonds d'investissement, mais c'est le capitalisme, je ne sais plus, ça va me revenir.
Capitalisation.
En fait, c'est chaque fois traduire les start-up ont pour but. Alors, il y a des start-up qui ont fait fortune. Google, à la base, était une start-up. C'est drainer des capitaux. On prône l'innovation la plus spectaculaire. Les start-up, il faut à tout prix qu'elles se démarquent des autres, en ayant un programme de recherche le plus fou possible. Et en sachant que peut-être ce programme aboutira un jour. Donc le but, c'est de drainer des capitaux, capital risque, voilà, c'est le capital risque, et que ces startups aient les moyens financiers de pouvoir se développer. Il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont été menées dans ce sens-là. Donc le transhumanisme, on voit qu'il y a une philosophie. Je vous ai donné quelques exemples, on pourrait parler des extropiens aussi. C'est aussi des gens qui sont un peu... c'est Max Moore, qui lui est à la tête d'une société de cryogénisation. C'est aussi un des papes du transhumanisme. Voilà, lui, il visait plus d'intelligence, de sagesse, d'efficacité, une durée de vie indéfinie, la suppression des limites politiques, culturelles, biologiques et psychologiques à la réalisation de soi. On est en plein dans le programme des transhumanistes. Donc il y a quand même un programme économique et un programme politique. Économique, c'est la start-upisation du monde. Je vous conseille de lire le livre... qui s'appelle la silicolonisation du monde, Eric Sadin, qui vient de sortir. Et il y a un programme politique, le libéralisme libertarien. Donc on n'est pas dans rien. Alors pour aller très vite, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est intéressant de savoir en France comment se traduit le transhumanisme en France. Alors il y a peu de temps, on n'en entendait pas parler, c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas. Mais depuis 3 ou 4 ans, il y a une société qui s'est créée, le transhumanisme, une société transhumaniste française, qui s'appelle Technoprog. Alors moi, je les ai rencontrés, je les ai interviewés, je suis allé à quelques-unes de leurs conférences. Pour moi, c'est surtout un lobby de gens qui cherchent à se faire une place. Mais comme ils sont porteurs de cette idéologie, ils sont invités partout, dans les médias. Moi, j'ai assisté, ils sont invités par les milieux médicaux. Moi, j'étais à Marseille, à Poitiers, c'était pareil. Les hôpitaux les invitent. Donc ces gens-là, eux, ils ont une vision du transhumanisme qui se veut social, qui en fait ils veulent l'immortalité pour tous. C'est grosso modo leur truc. Sauf qu'ils sont pour... ils remettent absolument pas du tout en cause la croissance dans laquelle on est. Ils sont pour une généralisation des OGM. Ils sont pour faire des bébés avec où il n'y aurait plus de... il y aurait des utérus artificiels, des espèces d'usines à faire des bébés, ce qui est possible aujourd'hui. Ils sont pour, par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour intervenir directement sur l'atmosphère, ou intervenir sur le corps humain pour faire des humains qui auraient besoin de moins d'eau et qui supporteraient plus de chaleur. Bon, ça, c'est leur délire. Pour moi, c'est des gens, c'est un lobby, ils essaient de faire leur business avec ça. C'est pas les plus dangereux. Pour moi, le plus dangereux, c'est un individu, et c'est aussi une idéologie dont il est porteur, notamment, il se réclame, lui, ouvertement du libéralisme libertarien, et c'est un monsieur qui s'appelle Laurent Alexandre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un en a entendu parler. Il est présent sur France Inter, France Culture, Arte, il est chroniqueur dans le monde, il est chroniqueur, il écrit partout. Dès qu'il est question d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, il est là. C'est le spécialiste des nouvelles technologies. Ça vous dirait. Moi, par exemple, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps sur une émission sur France Culture sur le bonheur, où on le présentait comme un libre penseur. Alors ce monsieur, en fait, c'est lui, par exemple, qui milite, qui fait pression. Il s'est un ami très proche du président de la région Aquitaine aussi, Alain Rousset. Il a ce projet d'université de la singularité avec lui. Et il fait pression tous azimuts pour qu'on en finisse avec la réglementation, avec la régulation, avec le principe de précaution, avec tout ce qui est comité national d'éthique, ce qui aboutit à la position de Cédric Villani, qui n'était pas sur ses positions il y a 2-3 mois, et qui aujourd'hui, dans son rapport, adopte carrément les positions de M. Laurent Alexandre. Alors ce M. Laurent Alexandre, il a écrit plein de bouquins, il en est à son quatrième, je crois, il a créé le site Doptissimo. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a revendu ce site à Lagardère. Il a vendu 140 millions d'euros. Avec ça, il a créé une société, une des plus grandes sociétés de séquençage génomique en Europe, qu'il a installée en Belgique pour ne pas payer d'impôts. Et il a racheté tout un tas de start-up et de sociétés spécialisées dans la gestion des données. Donc au niveau économique, il représente un certain poids. Il se présente comme docteur, il a été urologue, mais il n'est plus du tout actif. On le présente souvent, soit comme libre-penseur, soit comme médecin. C'est un monsieur donc, qui est chroniqueur dans tout un tas de journaux, et qui fait partie aussi d'un club très fermé qui s'appelle Le Siècle, qui réunit toutes les élites, entre guillemets, économiques, politiques, médiatiques de la France. Je vous conseille de voir le film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, par, je ne me souviens plus du nom du réalisateur.
Annika Boat et Gilles Balbas.
Mais Gilles Balbas, ouais, avec qui j'ai fait l'école de journalisme. C'est un très très bon film, qui est toujours d'actualité. Vous comprendrez tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau médiatique en regardant ce film. Donc ce n'est pas n'importe qui. Alors ce monsieur, donc, qui passe pour être un libre penseur, je ne vais pas trop m'étaler sur lui, mais je vais vous lire deux passages, parce que la plupart du temps, je pense que les gens qui l'invitent n'ont pas lu sa littérature, ne savent pas qui c'est qui. Lui se présente comme un spécialiste du transhumanisme, mais souvent il fait des critiques du transhumanisme. Mais toutes ses citations, toutes ses références sont liées au technoprophète du transhumanisme. Donc je vais vous lire deux passages, et après, je vais vous lire un passage de ma conclusion, et après j'arrête de parler, ce sera à vous. Donc, premier passage de ce monsieur, tiré de son livre qui s'appelle « Tuer la mort », sorti il y a 5 ou 6 ans, je crois. Lorsque les technologies d'augmentation des capacités intellectuelles, les coefficients intellectuels vont arriver, les parents qui ne les utiliseraient pas pour leurs enfants feraient d'eux des parias, des marginaux. C'est un problème politique majeur, mais la biopolitique et la neuropolitique sont le cœur de la politique du XXIe siècle et vont devoir répondre à ces questions pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse. La coexistence entre des gens extrêmement intelligents, alors là c'est tout son fantasme sur le QI, grâce à la technologie et des gens qui ont des capacités intellectuelles moyennes, ne peut pas être harmonieuse. Y a-t-il cohabitation harmonieuse entre les hommes et les chimpanzés? Non, nous les mettons dans des zoos. Voilà, alors ce monsieur, s'il avait vécu dans les années 30, dans les années 1930, je pense qu'il aurait adhéré à une certaine idéologie. Un dernier extrait, et bon, ça en est plein, hein, de citations comme ça, un dernier extrait. Mais genre, tout discours sur la dégradation génomique de l'humanité rappelle vite de sombres souvenirs. Il ne s'agit pas aujourd'hui de promouvoir une idéologie inégalitaire, mais bien au contraire de mettre en place des mesures protégeant notre patrimoine génétique dans le futur. Depuis le recul de la sélection darwinienne, l'organisation de la société moderne permet à des gens porteurs d'infimes modifications accidentelles de l'ADN, par ailleurs des fois ils les appellent des dégénérés, de survivre. Génération après génération, ces modifications vont s'en combiner et se cumuler. Nous allons donc devoir intervenir grâce à la science pour enrayer ce déclin. Voilà, donc si pour lui, si on ne fait rien, le patrimoine génétique de l'humanité va se dégrader, on va vers la dégénérescence, il faut à tout prix intervenir pour sauver l'humanité, et voilà, et sélectionner. Après, on va très vite vers l'eugénisme, vers la sélection d'une race supérieure, augmentée, et les autres seront des chimpanzés du futur. Alors juste, pour ne pas rester sur une note trop négative, mais bon, il faut être conscient, vous allez... Peut-être si maintenant vous connaissez son nom, vous allez faire attention à ces citations ou des gens qui sont aujourd'hui de plus en plus sur ces positions. Alors juste un petit passage. Alors me voici arrivé au terme de ce voyage qui m'a conduit dans une chambre d'hôpital où une vieille dame censée avoir perdu la tête me confiait avec un petit sourire avoir vu le point zéro jusqu'à la Silicon Valley où le responsable de l'ingénierie d'une des entreprises les plus puissantes de la planète rêve d'atteindre un autre point zéro, appelé singularité, qui serait autrement plus inquiétant pour l'humanité que celui perçu par ma mère. Un voyage depuis la fragilité humaine jusqu'à la toute-puissance technologique et financière de groupes de pression aux visées inquiétantes. Ma question existentielle du début de ce parcours, qui suis-je, s'est transformée en qui sommes-nous? Quelle est notre mission d'humain sur cette planète? La conquérir, la détruire et nous détruire dans le même temps en accomplissant les prophéties d'une science divinisée et hors de contrôle, ou vivre en harmonie avec cette planète qui nous accueille et prendre soin de l'humanité avec humanité grâce à une science respectueuse de la vie. Voilà, ce sera la conclusion de mon intervention. Merci, maintenant la parole est à vous. Et voilà. Toutes ces informations sont
oui, il y a deux mails, là. Léna.
Juste deux petites
rajouts.
Ces jours-ci, sur France Culture, il y avait tard dans la nuit, dans la soirée, il y avait un rapport par rapport à l'école du futur. Le ministre avait publié un rapport, ce qu'il veut faire avec l'école. Et il y avait un monsieur à la radio, dont je ne me rappelle pas le nom, qui disait avec une certitude, l'intelligence est dans les gènes. Et je trouve choquant que le journaliste n'a pas embrayé. Pas du tout.
Non.
Il a laissé
c'est
ça.
C'est une idée qui se diffuse.
Il a laissé ça dans l'air.
Donc, voilà, et que le QI aussi soit la seule référence. Oui. Qu'est-ce que c'est que le QI? Qui a créé le QI? Pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce que c'est que ça vient le QI?
Que quelqu'un comme moi qui vient d'une maison d'ouvriers a pu faire des études. Grâce à une éducation à l'époque encore assez bonne, où on est dans les années 70, il y avait des profs qui se sont arrachés le cul pour nous aider à arriver au même niveau que les bourgeois. Plus mot de ça. On n'a plus besoin de ça, de toute façon, on n'a plus besoin de gens intelligents parce qu'on serait des machines. Et la deuxième réflexion que je me fais depuis quelques temps, tous ces trucs interconnectés, bases de données stockées, tout ça, ça prend une énergie faramineuse. Ça ne tombe pas du ciel. Ils mettent les stockages par hasard dans les pays nordiques où il fait plus froid parce qu'il faut les refroidir, tous ces stockages. Et on stocke plus. Un jour, on va faire exploser la planète par rapport au besoin de toute énergie pour avoir un émetteur ici, un émetteur là, un émetteur là, et tout collecté, tout rafistolé pour faire conduire les voitures sans qu'on intervienne.
Oui.
Oui,
juste après.
Mon épouse est secrétaire de mairie et on sait aujourd'hui que tout l'état civil va être dématérialisé et stocké dans des data centers dédiés. Alors là, il suffit de s'imaginer si on a un dictateur qui arrive au pouvoir et que, en plus de l'état civil, on y croise toutes les données qu'on a sur la génétique pour savoir d'où vous venez, etc. C'est vrai que ça va très vite, ça va très très vite.
C'est étonnant que tout le débat qu'il y a eu ces derniers jours, tout ça a été zappé. Enfin, moi j'avais lu des interviews de Villani au début, il se posait quand même des questions, il avait un regard un peu critique quoi, sur l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, lors de la remise de son rapport, tout ça est complètement laissé de côté, c'est purement la guerre économique, il faut que la France investisse là-dedans 30 milliards d'euros, pour être parmi les 5 premiers États à la pointe de l'intelligence artificielle. C'est une logique purement économique, de guerre économique. Il n'y a plus aucune prise de questionnement par rapport à la philosophie. À quoi sert l'intelligence artificielle et quelles sont ses conséquences? Un cadre éthique, il n'en est plus question parce que ça va ralentir les choses. Et c'est là que je vois que le discours de M. Laurent Alexandre, qui paraît anodin, mais finit par gagner petit à petit, ou alors il n'est pas tout seul, très certainement, mais en tout cas, son discours est en train de passer petit à petit dans la réalité.
Juste pour finir sur Cédric Villani, c'est un mathématicien, un théoricien qui en même temps a fait des travaux sur la jonction mathématique et physique, c'est-à-dire la physique c'est la science du réel, alors que la mathématique c'est la science de l'imagination. Et donc il a fait ses travaux à lui, sa thèse, et ensuite ce qui lui a valu la médaille Fields, c'est ça. C'est cette relation entre l'imagination et la physique, qui est la science du réel. Et le mathématicien émet toujours, comme le physicien, émet toujours des doutes. Il n'est jamais sûr de rien. Il est sûr de ce qu'il avance en disant, c'est pas évident que ça soit vrai. Donc, c'est comme ça que la science avance. Quand il y a des démonstrations qui font que cette étape-là est vraie, la venue d'Einstein en est un exemple. Il y a des choses qu'il avait prévues, mais c'était dans son imagination. Puis il y en a qui l'ont démontré 50 ans, 70 ans après. Donc le boson de Higgs, c'est pareil. Ça a mis 50 ans à être démontré, mais c'était le fruit d'une pure imagination. Or là, il a complètement changé de discours, il n'a plus aucun doute. Et c'est là où on voit apparaître l'homme politique. L'homme politique n'a pas de doute. Et donc, en l'espace de, on va dire, 8 mois, puisque son élection date du mois de juin dernier, et de juillet, peut-être même, non, fin juin dernier, il est rentré dans un cadre. Et alors, je ne sais pas si ça n'est aperçu, je ne sais pas s'il en est conscient, mais c'est clair comme de l'eau de roche, connaissant le fonctionnement des scientifiques, de voir ce qu'il est capable, hier, de dire, soit sur France Inter, soit sur 28 minutes. Donc c'est vraiment, il n'y a plus de doute. C'est là qu'il faut aller. C'est la voie est éclairée.
Mais les journalistes aussi qui le reçoivent ne posent pas de questions.
Ah ouais, le côté critique est éliminé.
Quand ils reçoivent Laurent Alexandre, c'est pareil, ils le mettent sur un pied d'estrade. Et là, pareil, par Villani, personne n'est rentré dedans. Par
rapport à ça,
même pas rentré dedans. On a évoqué la question de contrôle de l'intelligence artificielle.
Je voulais dire juste une chose, répondre aussi à ce que tu dis, parce qu'il y a aussi un principe en physique qui est l'indétermination par rapport au chat de Schrödinger, par exemple. Donc là aussi, il y a beaucoup à parler. Et ça, c'est pas mathématique, c'est physique. Je crois que... Bon, on peut rediscuter de ça. Je voulais signaler simplement qu'il y a un bouquin qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, dans les années 45, je crois, qui s'appelait « Les animaux dénaturés », d'un dénommé Vercors. Et c'était l'histoire de gens qui découvraient dans la jungle des animaux qui étaient dénaturés, qui n'étaient plus des humains. C'était pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, c'était tout ce qui était leur exploitation, la mise en forme de cette exploitation. Et ça, je crois que, effectivement, les gens qui actuellement ont du pouvoir doivent connaître ce qu'a écrit Vercors et s'en servir. Enfin, je crois aussi que tout espoir n'est pas perdu parce que, pour le moment, on est complètement dans le théorique. Et dans le mathématique. Et je crois fortement que, je le disais tout à l'heure, il y a aussi une conscience qui accompagne cette intelligence. Et quand on aura trouvé le gène de la conscience, alors à ce moment-là, on pourra agir peut-être sur le gène. Mais pour le moment, je ne sais pas si on va le trouver. C'est comme si on recherche le gène de la jambe coupée pour pouvoir savoir si, effectivement, un jour ou l'autre, je me méfie beaucoup.
Là où je me méfie beaucoup, c'est la question par rapport à notre on devient de plus en plus responsable pour notre santé avec tous les données qu'on stocke volontairement avec les footings, on fait les pressions, on le met sur Facebook, on rentre dans un jeu dans lequel c'est nous qui devient responsable pour notre santé. Et si, par exemple, tu continues de faire de la moto comme moi, tant pis pour toi, tu payes plus pour ta sécurité. Tu veux fumer comme un GG, plus pour la sécurité. c'est ta choix, t'es responsable pour ta santé. Sauf que développer un cancer ou pas, c'est pas sûr.
Justement, est-ce qu'on n'est pas dans cette histoire de retourne à la séparation corps-esprit et on devient en tant qu'esprit responsable de son corps comme d'une entreprise. C'est la start-up France, la start-up corps et justement ces piliers connectés qui vont peut-être conditionner des remboursements au fait qu'on prend bien les pilules, etc. Et ces choses-là où on devient gestionnaire de son corps comme gestionnaire d'une entreprise, et ce fameux développement personnel va vous culpabiliser si vous ne faites pas votre footing, si vous ne faites pas 40 kilos, si vous n'êtes pas bien dans votre tête et dans votre esprit, si vous ne faites pas du pilates, j'en sais rien. Et cette séparation corps-esprit qui fait qu'on devient gestionnaire d'une entreprise, quoi, et maltraitant si on ne gère pas bien cette entreprise et si on ne la fait pas fructifier à son maximum.
Mais le problème, c'est que pour les nouvelles générations qui sont à fond dans tout ce qui est iPhone et toutes ces nouvelles technologies, ça va être difficile pour eux d'avoir un regard critique, s'extirper de tout ça, quoi. C'est là où il y a le danger, je pense. Nous-mêmes, on est déjà sur Google, sur Facebook. Mais bon.
On peut toujours indiquer qu'il y a des moteurs de recherche qui, effectivement, coupent le pistage. Et donc, il y a Quant, qui est une fabrication française. Il y a Lilo, qui est une fabrication au départ française, mais qui est devenue internationale. Donc, abandonner Google, ça marche aussi bien. Et il n'y a plus de publicité, plus de pissage, là, ou pichage, je ne sais pas comment on dit, phishing, là. Phishing, voilà. Phishing.
Ça s'appelle Quant.
Quant. Q-W-A-N-T. Ou bien Lilo, L-I-L-O.
Et on peut le, comment on fait
pour, sur son ordinateur. On va chercher grâce et une dernière fois au dernier. Et une dernière fois, on va le chercher. On lui demande à son ordinateur de faire de Lilo ou de Quant son moteur de recherche prioritaire, sa page d'accueil. Sa page d'accueil. Voilà. Donc, Quant ou Lilo.
Et en plus, on gagne des gouttes d'eau. Hein.
Oui, sur Lilo, on a effectivement un fonctionnement signé écologique. Voilà. Et puis, il y avait.
Mais sur le plan de l'écologie, ça va coûter combien tout ce stockage de données?
Il y a quelqu'un? Oui, vas-y.
Moi, j'avais une question. Ça, j'ai plus encore, quand vous parlez de la génétique, je parle à ce point. Quand on parlait de la génétique et que je faisais justement directement le lien avec la physique quantique et que d'abandonner ces recherches au niveau génétique, pour moi elles sont nécessaires. Et quand vous parlez d'Alzheimer, bon, moi-même j'ai travaillé avec des personnes Alzheimer, mais dans le personnel de rééducation, pas dans la pharmacie ni les médecins, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi faites à côté.
Qui sont
aussi réalisés à côté du fait de simplement leur donner des médicaments.
Oui, oui. Pas eu le temps de développer ça.
Voilà. Mais bon, ça existe.
Oui,
ça
existe.
Il ne faut pas que présenter la face désastreuse.
Excusez-moi, je suis allé très vite. Parce qu'il y a des soirées, il y a des soirées, en fait, tout tourne autour pratiquement d'Alzheimer. Et donc, j'ai le temps de développer. Il y a la dernière conférence que j'ai faite, la moitié du public, c'était les médecins, des gens qui géraient les EHPAD. Voilà, donc ça a été axé là-dessus. Donc on a beaucoup parlé de tout ça, évidemment. Mais en tout cas, c'est bien de le dénoncer. Moi, j'ai écrit un article dans Le Monde Diplomatique qui s'appelait « Alzheimer, maladie politique », qui a fait la première page. J'avais deux pages à l'intérieur, c'était en février 2016. Il n'y a eu aucune réaction, rien. C'est comme si, alors, je pensais qu'il allait, parce que je dénonce beaucoup de choses. Après, je fais parler des gens qui ont travaillé même pour les laboratoires pharmaceutiques, qui sont devenus hyper critiques. Mais il y a un certain nombre de témoignages qui sont quand même assez troublants. Personne n'a répondu à ça. Je n'ai jamais été invité à une émission en France Inter ou quoi que ce soit pour parler. Voilà. Donc c'est comme si cet article n'était. Je sais qu'il était très lu, mais il n'y a eu aucune réaction. Donc je pense que je suis. Pas à côté. J'ai essayé de faire très attention dans tout ce que je disais, c'était un long travail par rapport à ça. Après, des expériences, j'en parle dans le bouquin. Il y avait une expérience dans Lot-et-Garonne qui était extraordinaire, menée par le docteur Bonnevet, il avait une approche non médicamenteuse, très humaine, avec l'humanitude, avec les snozélènes, c'est... Snozélènes. c'est du massage, c'est super, c'est du massage avec des bains d'eau chaude, c'est du bien-être, c'est considérer les personnes malades comme des individus, des personnes humaines et pas des résidents. On ne les réveille pas à 7 heures, ils se réveillaient quand ils voulaient. Il y avait vraiment beaucoup de bien-traitance, mais sauf que ça a été fermé parce que ça coûtait trop cher.
Ah, oui.
Après, il y a des expériences qui se mènent au Québec, et puis il y en a plein en France. Il y a des expériences aujourd'hui qui essaient de servir de la méthode Montessori dans certains EHPAD. Moi, je vous conseille alors, de voir un film, je crois, qu'il est alors, sur YouTube, hein, qui appartient à qui YouTube qui ça appartient à Facebook, je ne sais plus. Donc, YouTube, il y a un film qui s'appelle une jeune fille de 90 ans, qui est absolument extraordinaire. C'est l'expérience d'un chorégraphe dans un EHPAD. Il y a une relation amoureuse entre une dame de 90 ans et un chorégraphe. Enfin, la dame Renée. Enfin, il y a tout un tas d'expériences qui sont menées. Alors, le but, c'est pas de soigner, c'est pas le but. Il n'y aura pas de miracle, on ne va pas, comme les transhumanistes, croire que parce qu'on fait de la chorégraphie, on va vivre jusqu'à 150 ans ou 200 ans. C'est juste le respect et de permettre à ces personnes, et nous-mêmes, ce sera notre cas bientôt, de finir nos derniers jours dans la paix, pacifique, enfin, dans la sérénité, et pacifiquement, dans la paix, non pas pacifiquement. Dans la sérénité, voilà. Et dans la bienveillance. C'est ça qui est le plus important. Et il y a un certain nombre de personnes, d'institutions qui proposent ça aujourd'hui. Et les médicaments, pour moi, quand on balance 15 médicaments à une personne âgée, c'est pas de la bienveillance.
Le problème, c'est effectivement, tu parles d'institutions, d'expérience, celle-là vient de fermer parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle dit bien qu'on peut toujours faire autrement, mais autrement passe par du personnel. On a vu les personnels d'EHPAD.
C'est la grève des personnels des EHPAD, voilà. Dans ce sens. Je pense qu'il faut les encourager.
Est-ce qu'on met l'argent pour payer des gens ou pour enrichir des sociétés?
Voilà, c'est le dilemme, il est là.
Parce que si on paye les gens, je veux dire.
Ce qui veut bien dire que la réponse, elle est politique. Et la réponse politique ne correspond pas à celle qu'on nous propose à l'heure actuelle.
Excusez-moi, c'est tout.
Je n'ai encore plus sur les politiques pour réaliser aucun changement à ce niveau-là. Moi, j'estime, en tant que personnel travaillant dans ce genre d'institution-là, c'est à chaque membre, à chaque famille, à chaque personne qui va, en conscience, de le faire.
Oui, oui.
Et ça va se faire. Ce qu'il y a, c'est que le personnel a encore trop peur de perdre son emploi. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas. Sinon, moi, je crois que c'est réalisable. Parce que, tout vous remettre, j'ai bien lu votre exposé, mais tout ça, ça ne fait pas assez confiance à l'humain, tel que nous sommes, et aux capacités de choix que nous avons, et de libre arbitre, que pour agir. Désolé, bon, je crois que si on est tous là, c'est bien parce qu'on est quelque part un peu conscient.
Mais dans les EHPAD, moi, j'ai vu les faits. Moi, j'ai fréquenté les EHPAD pendant presque 7 ans. Et les familles ne venaient plus, elles avaient peur. Ça leur faisait peur quand leurs parents passaient de l'unité Alzheimer, ou alors là c'était tous les clinquants, les hommes politiques qui venaient inaugurer ça, il y avait des animations, on les sortait en vue. Et dès qu'ils ils basculaient dans la dramatisation provoquée par les médicaments, ils passaient dans l'unité 2. Et là c'était le mouroir. Plus aucune famille ne venait, on était deux à venir. Plus aucune famille. Les gens sont terrorisés. Parce que,
quand j'ai vu ce qu'on m'a dit, quand j'ai entendu ce qu'on a dit à la télé, on ne reconnaissait pas notre établissement, on ne fonctionne pas du tout comme ça.
Il y en a quelques-uns qui ne fonctionnent pas comme ça.
Il y a de l'humanité.
Dans certains, oui, mais la majorité des EHPAD.
Pourtant, il y a souvent des personnes en maladie, mais on téléphone, il y a notre collègue qui vient remplacer.
Moi, j'ai fait avec mon article. Tous les témoignages, puis je connais personnellement des amis qui sont aides-soignantes. Il y a déjà une maltraitance qui pour moi est basique. C'est que tous les témoignages vont dans ce sens, c'est que de 7h à 10h du matin, vous avez 30 ou 40 personnes à réveiller, vous devez leur faire la toilette, leur donner le petit déjeuner en 10 minutes. Où est-ce qu'est l'humanité? Oui, en 10 minutes. Non, la toilette se fait en 10 minutes. Vous n'avez pas le temps de parler avec les personnes. Vous n'avez pas le temps de... Ben dans votre EHPAD, mais dans tous les EHPAD, moi, tous les témoignages, même les directeurs d'EHPAD qui étaient là, à ma dernière conférence, témoignaient de cela. Et pourquoi on réveille une personne de 80 ans, pourquoi on la réveille à 7 heures du matin?
On la réveille à 7 heures du matin, mais elle dort pourquoi aussi bien tout l'après-midi. Elle dort
mais non, mais journée. Pourquoi on lui fait la violence de la réveiller à 7
heures? Pourquoi on met les personnes en EHPAD?
Mais voilà, pourquoi
non, mais il y a des EHPAD, on ne le réveille pas à 7 heures du matin.
Oui, mais la base, c'est quand même pourquoi on
parce que
est
pas,
arrivé là à mettre nos vieux.
Parce que la société dans laquelle on vit veut que...
C'est qui la société? C'est nous aussi.
Non, c'est pas forcément vous. Il y a des gens qui sont pris par tout un tas de circonstances, et puis c'est pas facile de s'occuper d'une personne. Vous ne pouvez pas culpabiliser tous les gens qui mettent leurs parents dans les EHPAD, c'est trop facile.
Moi, j'ai soigné ma mère jusqu'à son dernier
hôpital.
Ouais. J'ai cru que j'avais pas. Mais après, il y a une force qui nous est donnée. Et ça, peut-être que ça, il faudrait le travailler. Et je pense que maintenant, on n'a plus l'image de cette fin de vie accompagnée en famille. C'est vraiment l'idéal. C'est dur, c'est pas que ce soit pas dur.
On est dans une société de plus en plus individualiste, la famille.
Mais pourquoi on est individualiste?
Le nombre de familles qui se déchirent pour payer les frais d'EHPAD, les procès qu'il y a et tout ça. Donc, on n'est pas dans une
famille.
Voilà.
Les enfants ne restent pas autour des parents. Les enfants,
c'est peut-être l'occasion de se rapprocher, parce que quand les parents ont 90 ans et que les enfants ils sont quand même à la retraite.
Il n'y a pas que les enfants, et puis il y a le tissu social, il y a la communauté, il y a le village, il y a les
amis. C'est tout à repenser.
Oui, mais tout ça, il faut le... Il faut le repenser, c'est pas à la portée de tout le monde, ça. Le système dans lequel on est détruit tout ça. Autrement, il n'y aurait pas tout. 50% du personnel qui se mettra en grève, qui n'en peuvent plus.
Qui
démissionne. Autrement, il n'y aurait pas 50% du personnel qui se mettra en grève pour dénoncer les conditions de travail.
Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans les EHPAD, les grosses structures, c'est vrai que ça fonctionne comme à l'usine. Mais toutes les petites structures, ça je peux confirmer, ça n'a rien à voir avec une structure où il y a 80 ou 100 lits. Hein. Les petites structures à 40 lits, je vous certifie que sur l'Aveyron, il y en a qui fonctionnent très bien. Beaucoup mieux, ça c'est sûr.
Il y en a quelques-unes. En tout cas, dans le Lot-et-Garonne, toutes les structures ont fait grève. Parce que les filles, elles n'en peuvent plus.
Oui, mais c'est
elles n'en peuvent plus quand même, parce qu'elles sont... Il y a de plus en plus
d'absentéisme
qui n'est pas remplacé.
Partout on prêche que l'humanité, l'humanitude, oui. Et je ne sais pas quoi et comment il faut faire, mais il faut des moyens pour faire ce qu'on nous met sur un papier. Parce qu'on n'a pas vu grand monde avec ceux qui pondent les directives venir nous dire. Ils nous disent comment il faut faire, mais on n'a jamais personne là pour concrètement. Tout le monde en est convaincu qu'il faut bien faire, qu'il faut s'entourer, qu'il faut s'occuper bien, mais tout le monde en a envie. Quand on a choisi ce métier, tout le monde en a envie. Mais après, la réalité, même on pas où choisir, c'est une autre planète.
Hein. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Vous êtes bien d'accord qu'il y a un problème? Enfin, il n'y aura pas... Toutes ces grèves à répéter.
Moi,
je connais plein de personnes hein, qui travaillent dans les EHPAD.
Oui, mais elles n'en peuvent plus. 40 ans.
Elles ont démissionné, elles n'en peuvent plus. C'est l'absentéisme, elles se retrouvent en permanence avec des personnes qui sont absentes, qui ne sont pas remplacées. Donc, avec des
horaires. Parce qu'on compte les lits comme des pots de yaourt ou des.
Donc il y a quand même une logique derrière.
À la tête de ces.
Il y a quelques expériences qui sont menées qui restent humaines, mais le système dans son. Dans sa globalité, n'est plus humain.
Ah oui, mais c'est quand certain. On parle d'habitat intergénérationnel.
Oui, mais ça, c'est une exception.
Voilà, c'est une exception. Pas, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais qui ne se lancent pas concrètement. Il faut quand même agir après. On le fait, quoi.
Oui, mais
au niveau des soins palliatifs,
ben, vous en parlez. Je dis en question, après,
il ne faut pas en parler. Excusez-moi, il y a quelque chose que je crois. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas dénoncer ce qui se passe dans les EHPAD. Il faut faire comme si de rien n'était.
Non, moi, je vois qu'il y a des grèves.
Qu'on préfère acheter des bébés phoques.
C'est bien beau de parler de plein de choses, mais qu'il faut rester acteur. De la manière.
Moi, je vous invite à rester acteur.
Qu'on a envie. Ah ben oui.
Moi, j'ai pas
un seul. Parce que pour moi, c'était insupportable.
Je pense avoir été acteur en écrivant ce bouquin.
Je dis, c'est pas leur place, là. Il faut plus les mettre dans la maison de retraite. Donc, moi, j'ai quitté la maison de retraite pour qu'on voit dans la maison.
Oui, mais tout le monde ne peut pas faire ça, madame. Tout le monde ne peut pas faire ça.
Non, moi, j'étais travailleuse, là. J'ai quitté mon emploi. J'ai quitté un
CDI. C'est bien.
Mais tout le monde ne peut pas faire ça.
Mais non, mais quoi ? Parce que si, je crois...
Non, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui sont pris dans des contradictions, dans leur vie.
Non, mais pire que ça, quand les gens sont alités, moi, je ne peux pas les laver, les gens.
Oui, voilà.
On n'a pas les moyens physiques ni...
Il ne faut pas culpabiliser les personnes qui mettent leurs parents dans les EHPAD.
Moins de l'un.
Parce que
c'est
l'heure
actuelle des choses.
Quand on a repris ma maman, elle avait un cancer du dos. C'était très lourd. Mais les médecins ont dit qu'on ne s'en sortirait pas. Et personnellement, à un moment, j'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas. Et puis après, il y a une force qui nous est donnée. Parce que l'essentiel, je ne sais pas, c'est le plus qu'ils ont besoin, c'est de contact, de parole, de chaleur humaine. Après, il y a les soins palliatifs qui viennent à domicile. J'aurais jamais cru qu'il y ait tout cette manche qui est à notre disposition.
Oui, ça se passe, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas assurer une présence, qui sont pris par leur famille. Il y a beaucoup de familles, il y a une personne et tous les autres abandonnent.
Il y a
des familles de 5-6 enfants. Il y en a un qui s'en occupe. Les autres, ils laissent complètement tomber. Et au bout d'un moment, cette personne, elle craque. C'est humain. Et voilà. Donc la seule solution, moi j'ai eu plein de cas, sa seule solution, c'est de mettre la personne dans un EHPAD, parce que l'autre personne, le père est mort, et est-ce que la mère, ou l'inverse. Et parce qu'ils ne peuvent plus au bout d'un moment. Mon frère s'occupait de ma mère, il a fallu partir en hôpital psychiatrique, il n'en pouvait plus. Et moi, je ne pouvais pas la mettre pour tout un tas de raisons. Donc, on l'a mis dans un EHPAD parce qu'on n'avait pas le choix. Et cet EHPAD, moi, quand on l'a présenté, c'était l'idéal. J'y ai cru.
Moi, je travaille dans un EHPAD et franchement, quand j'ai vu ce qu'on disait à la télé, moi, je trouve que ça ne correspond pas.
Dans votre EHPAD.
Et tous, on l'a pas... dit, et on ne se sent pas concerné.
Mais madame, vous, mais les milliers et les milliers de femmes qui se mettent en grève, c'est pas pour leur... C'est, en plus, souvent, c'est même pas pour leur... Elle dit, c'est pas pour nous qu'on se met en grève, on demande des moyens pour apporter de l'humanité. Alors, il ne faut pas généraliser votre cas. Alors, autrement, il n'y aura aucune raison que toutes ces femmes se mettent en grève. Et tous les témoignages vont dans ce sens.
Même les familles.
Donc, tout ce que j'ai vu, tous les médecins, tous les aides-soignants, les infirmières qui viennent encore au débat, tous les témoignages vont dans ce sens. Alors peut-être qu'il y a quelques expériences, celle du docteur Bonnevé dans Lot-et-Garonne, quand elle existait encore, on aurait pu dire, oui, mais regardez. Sauf qu'ils l'ont fermé parce que ça coûtait trop cher. Et là, effectivement, il y avait de l'humanisme. Mais moi, de façon globale, l'ensemble du système manque d'humanité pour les personnes âgées et pour la société, de façon générale, manque d'humanité pour les anciens.
J'ai toujours demandé pourquoi les Français ne se bougent pas le cul pour changer ça. Et ce sont leurs parents qui sont là-dedans. Ce sont eux qui vont être là-dedans, comme ce sont leurs enfants qui sont dans un mauvais système scolaire. Ils vont être dans un mauvais système universitaire. Et les Français,
ben, ça va faire des problèmes. C'est un problème génétique, faudrait tout augmenter.
Ça va marquer.
Bon, peut-être qu'on n'a-t-on pas fait le tour. La soirée a ses limites.
Moi, je dis, si je peux dire un truc, je pense qu'aujourd'hui on a peur de transhumanisme, de l'intelligence artificielle.